parlo cana.
Mais en fait, on a bien vu que aucun pays qui est sorti de la prohibition, par exemple, n'a eu une augmentation de la consommation. La prohibition ne fonctionne pas parce que de toute façon, les gens vont consommer. Comment on voudrait continuer avec la même méthode, obtenir des résultats différents ? C'est pas juste pour nous qu'on le fait en fait. On le fait pas juste pour l'assaut, on le fait pour tout le monde en fait. On le fait pour le grand public.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité, sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Ce que vous allez apprendre sur le cannabis légal va vous étonner. Que vous soyez curieux, utilisateur ou professionnel, nous allons démystifier une plante millénaire aux mille facettes. Ici, on parle de CBD, mais aussi THC, loi, production, laboratoire, produits, variétés et bien plus encore. Je m'appelle Mathias, je suis entrepreneur multirécidiviste dans le milieu du CBD et je vais à la rencontre des acteurs engagés qui feront le marché de demain. Je les interview sans filtre pour comprendre leurs techniques pour innover dans ce marché particulièrement contrôlé et restrictif. Alors, nourrissons-nous de l'énergie extraordinaire des intervenants. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Alors aujourd'hui, je suis avec Christelle Garnier.
Oui, c'est bien c'est ça, oui, c'est
ok
ça.
Christelle, je suis très content d'être face à toi aujourd'hui. Alors tu es membre du bureau exécutif de l'association Norme France. Alors je le dis mal, c'est Normal France.
Alors moi je dis Normal France.
Normal France, voilà, tu es membre du bureau exécutif. Alors c'est une association indépendante.
Oui.
Voilà, tu me dis si je dis des bêtises dessus, hein, parce que je vois que tu me regardes avec des gros yeux, qui est connu mondialement, et vous êtes les représentants français de cette association-là.
Voilà, on va dire qu'on est même la version française.
La version française, ok, on va rentrer en détail de toute façon juste après. Donc, vous représentez pas seulement la filière du CBD, mais le cannabis, les cannabinoïdes en fait, en général.
Alors, en fait, on est surtout là pour les usagers de cannabis.
Exactement. Alors, il y a un peu plus de 1500 adhérents aujourd'hui dans votre association, donc c'est balèze. Je vois que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux.
Absolument. On a une équipe assez importante là-dessus. Enfin, non, on n'a pas une équipe assez importante, mais ils sont très forts. On va dire qu'ils sont très forts, ça tape fort et ils sont cool et ils sont très forts.
Ils sont motivés et surtout, c'est un combat. J'ai discuté avec ton équipe, c'est un combat où tout le monde transpire ce combat-là. Donc, cette force, elle vient de là. Elle vient du fait que vous avez envie de transmettre des informations. Donc, on va rentrer en détail justement sur cette association. Mais évidemment, avant ça, j'aimerais que tu te présentes, Christelle, que tu me dises en fait qui tu es, quel est ton parcours et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu te bats pour ça. Donc, tu investis ton temps dans cette association justement pour protéger les consommateurs, pour informer le grand public. Qu'est-ce qui fait que ça t'a amené là? Mais d'abord, voilà, qui tu es, Christelle?
Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Christelle Garnier. Donc, j'ai 35 ans. Je suis maman. Dans la vie, on va dire dans le civil, je suis professionnelle des ressources humaines.
D'accord.
Voilà, donc, rien à voir particulièrement, en fait, avec la question.
T'as l'humain.
Probablement, ouais. C'est peut-être ça hein, d'ailleurs ouais. qui m'a rapproché le plus. Comment j'en arrive là? Tout simplement, je suis une ancienne consommatrice, on va dire encore consommatrice de façon occasionnelle. Et puis, je sais pas, un jour en fait, je me suis juste posé la question de, mais en fait, c'est quoi tout ce truc autour du cannabis? En fait, pourquoi on en arrive là? En fait, entre le moment où j'ai commencé à consommer et le moment où je me suis investie dans l'association, il n'y a pas eu beaucoup de temps entre les deux. Parce que dès le début, je me suis dit, non, mais en fait, on ne nous a pas dit tout ce qu'il fallait. Enfin, on ne nous a pas dit la vérité sur la question.
Alors, tu parles de quoi exactement? Du côté justice, du côté police, du côté répression, du côté information?
D'un point de vue global, en fait.
D'accord.
Parce que pour moi, le cannabis, c'était un truc qu'on devait mettre quasiment à la même hauteur que l'héroïne ou ce genre de choses, en fait. qui pouvaient être extrêmement graves, qu'on pouvait être accro dès la première taf. Enfin, c'était des choses. Bah, j'ai été baignée en fait vraiment dans l'idéologie prohibitionniste. Et de toute façon, je pouvais pas faire autrement puisque c'est comme ça qu'on nous avait élevé et même à l'école, etc. Bon, voilà. Et puis ceux que je voyais consommer, en fait, c'était toujours un peu des voyous, des gens pas très recommandables. Donc forcément, et j'ai pas mal de gens aussi de ma famille, mais pareil, c'était que des cousins et que des voyous. Donc du coup, voilà, j'étais restée très loin de ça. Et d'ailleurs, c'est même pas par ce biais-là hein, que j'ai commencé. C'est vraiment de moi-même, en fait, où j'ai un plat à pote. Je dis, vas-y, tu sais quoi, il paraît que ça fait ci, ça fait ça. Bah, vas-y, emmène.
On va voir.
On va voir. Vas-y, fais-moi, montre-moi comment tu roules. Et donc, du coup, c'est comme ça, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et puis je me suis rendu compte, en fait, que j'étais quand même loin de ce que j'avais lu.
D'accord.
Voilà. Et donc, du coup, je me suis mise à suivre, en fait, Normal France sur les réseaux sociaux. Alors, à l'époque, c'était Normal France Chambre et Liberté. Et donc,
ça, c'était en quelle année, ça?
Ça devait être vers 2015-2016, d'accord, je pense.
Ouais.
Donc, quand j'ai commencé à suivre Normal France. Et puis, un jour, j'ai vu une publication. C'était une des premières publications où on voyait les préfectures ou les commissariats qui faisaient une photo de ce qu'ils avaient
saisi.
De ce qu'ils avaient saisi et tout. Et puis, en fait... Le truc était pas clair, c'est-à-dire qu'ils avaient saisi du cannabis, mais on savait pas si c'était vraiment du cannabis ou si c'était du CBD, s'il y avait, enfin, il y avait tout un, c'était très flou, et je voyais que c'était volontairement flou.
D'accord.
Comme si, en fait, ils voulaient un petit peu orienter, la personne qui lisait vers, ah là là.
Le CBD, c'est mal.
Le cannabis, c'est mal et tout, mais il y avait pas de, voilà, j'ai senti qu'il y avait une sorte de désinformation, qu'on voulait pas nous dire totalement la vérité.
D'accord.
Je me suis rapprochée de Normal France. J'ai intégré en fait les bénévoles parce qu'en fait, je suis un peu quelqu'un qui ne fait jamais rien à moitié. Donc du coup, quand j'ai adhéré, dans les mois qui suivaient, je leur disais, je veux être bénévole en fait.
D'accord.
Je pense même que c'est l'inverse. J'ai voulu être bénévole et ensuite ils m'ont dit, ouais, faut adhérer. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc du coup, j'ai commencé en fait en aidant sur la boîte info de l'asso, c'est-à-dire que les personnes qui demandaient des renseignements, ben, en fait, j'essayais de leur répondre, j'allais chercher les informations et tout, mais en fait, j'étais complètement dépourvue d'informations, je n'avais aucune info, j'étais nue quoi, j'étais vraiment le noob du cannabis. Donc j'ai fait, je crois que c'était un mois ou un mois et demi après mon arrivée, Normal France a organisé sa première formation des adhérents. En fait, formation des adhérents plutôt actifs. Et donc, c'est là, en fait, on a fait une formation sur 2 jours où on a passé plusieurs thèmes, santé, réduction des risques, histoire, sociologie, un peu de droit, un peu de botanique. Et là, pouf! Mais vraiment, ça m'a explosé le cerveau. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je n'avais pas toutes ces infos-là et tout. Et j'ai bu, en fait, ces formations du début à la fin.
Ça, je te coupe, mais c'est excellent en fait. Le but du jeu là pour l'instant, c'est que tu t'es dit, écoute, voilà, moi j'ai des informations, je suis ben dans des informations qui me semblent fausses par rapport à ce
exactement.
que je me rends compte du marché. Et c'est vrai. Souvent, en fait, il y a beaucoup de fausses informations qui tournent et sur le milieu, et c'est fait exprès, je pense,
oui,
dire attention, il y a certaines choses qu'on peut pas faire. Derrière, tu t'es dit, allez, je vais prendre la pilule verte. Et je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière la matrice.
J'adore la pilule verte.
C'est ça. Et t'es rentré justement là derrière,
ouais.
La sauce. La sauce est là pour faire de l'éducation. Donc, ils ont formé les adhérents. Donc, ça, c'est génial. Et là, d'un coup, tu dis, waouh, ça y est, il y a une nouvelle planète. Il y a un nouveau monde d'information qui est là. Et le plus grand monde doit être au courant de tout ce que je viens d'apprendre.
Et c'est exactement ça.
Super.
C'est exactement ce qui s'est passé. Vraiment, ça m'a explosé le cerveau. À l'époque, j'avais j'étais en couple avec quelqu'un qui lui consommait depuis très longtemps, qui il connaissait aussi beaucoup sur la plante. D'ailleurs, il m'avait lui aussi commencé à me dire que, écoute, tout ce qu'on te dit là, ça va pas trop. Et en fait, j'en suis arrivée à un point où j'en savais plus que lui. Donc, c'était ma petite fierté, on va dire, féministe.
Après, il est devenu adhérent, alors.
Et après, il est devenu adhérent.
C'est bien. Un adhérent de plus.
Donc voilà, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment ce qui m'a mené par là. Et puis, au bout d'un moment, mais je me suis dit, c'est ça en fait. Il faut en parler, il faut informer. Et donc, j'ai commencé à devenir un peu une sorte de militante. Je suis militante. Vraiment, à ce moment-là, je suis devenue militante. En sachant que avant, j'étais quelqu'un d'assez timide, assez réservé et tout. Mais en fait, sur ce sujet-là, on ne pouvait plus m'arrêter.
T'es à fond.
On ne pouvait plus m'arrêter et j'ai aimé ça. Donc, j'ai fait de formation en formation. Et puis, petit à petit, je me suis investie. Jusqu'à proposer de rejoindre le bureau exécutif. Il y avait une question aussi qui commençait en fait un peu à ressortir, qui était la question de l'usage féminin et de l'entrepreneuriat féminin dans le cannabis. Et il y avait un film qui venait de sortir aux États-Unis, enfin ou qui allait sortir, qui s'appelait The Women of Weed. Qui était réalisé par Wendy Borman. Et en fait, tout bêtement, j'ai envoyé un message sur Instagram et je lui dis, mais est-ce qu'il y a une version française? Est-ce que c'est sous-titré? Et là, elle me dit, ben non, on n'a pas, mais si vous voulez, vous faites les sous-titres et OK, on vous donne une version.
D'accord.
Donc, j'ai un niveau d'anglais normal, je vais dire. Hein. Donc, j'ai pris mes petites mains et j'ai fait la traduction
du film.
J'ai fait la traduction des sous-titres du film. Et en fait, là encore, ça m'a replongé dans un autre domaine vraiment du cannabis qui était l'entrepreneuriat féminin. Et vraiment, j'étais. Ça aussi, ça m'a vraiment boosté parce que je me suis dit, oh là là, mais un jour, je veux faire ça, quoi. Un jour, alors, pas forcément monter ma boîte, mais vraiment, il y avait une sorte de réseau féminin, quelque chose un peu de l'ordre de la sororité et tout, qui me plaisait beaucoup. Et puis, je voyais des femmes vraiment, quoi. Parce que moi, dans mon entourage, je connaissais que des mecs hein, qui consommaient. Donc du coup
vrai parce que ce que tu dis c'est que les femmes sont sous-représentées dans le
Absolument.
Milieu notamment du cannabis et surtout dans le côté entrepreneur, c'est-à-dire qu'ils montent peu de sociétés.
Voilà, alors maintenant il y en a un peu plus,
ouais.
Hein, il y a par exemple Laure Bouguin de chez Ocaran qui fait très bien le taf. J'ai eu l'occasion de rencontrer des filles comme celle de Aqueron ou Embod. Emeraude, pardon, je ne sais plus si c'est ça. Bon, on va dire Emeraude.
C'est pas grave, on va adapter. Mais moi, j'en ai juste
mais
avant
elle
toi.
Elle s'appelle Léa Ruellan, voilà. Au moins
ah oui,
comme
bah,
ça.
Okay. Mais tu sais qu'elle est passée sur Parlons de Cana aussi. Donc,
d'accord.
On pourra écouter son podcast qui est passé.
Ah bah voilà. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup des Françaises aussi.
Super.
On s'écarte vachement du sujet.
on va revenir. Mais c'est bien, mais c'était intéressant. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que tu avais le premier message, c'est « je découvre ce nouveau monde, ok ?»
Oui.
Et il y a des informations, les gens doivent connaître. Deuxièmement, tu te dis « mais attends, je suis une femme, il faut aussi que je représente et que je pousse, peut-être j'inspire d'autres femmes à s'engager
c'est
et
ça.
À se mettre dans le milieu et se lancer dedans. » Et donc, il y a aussi le poids de cette responsabilité, de cette image que tu te rajoutes dedans. Et ça a poussé le côté militant, investissement dans l'association.
Exactement.
Beaucoup plus qu'au début.
C'est ça. Et puis, il y avait aussi, parce que du coup, on ne le verra pas par le podcast, mais comme je suis noire, il y a aussi un gros aspect de discrimination.
Alors, on le verra parce que tu seras sur la photo de couverture.
D'accord, pardon.
Et on le partagera sur les réseaux aussi. Hein.
Ok, ça marche.
Donc, on le verra.
Donc, il y a aussi cette question-là qui aussi est très, très forte et je dirais même plus forte que la question de l'usage féminin. Hein. Il y avait toutes ces questions-là où je me disais, c'est des sujets sur lesquels je pense que je peux dire quelque chose et je peux aider en fait les autres aussi là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses il y a un lien entre tous les adhérents qui deviennent actifs disent en fait on se sentait seul et quand on a trouvé l'association on a trouvé des gens comme nous et aussi des gens différents mais on était tous liés par la même chose.
Alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai interviewé des associations de producteurs, des associations justement comme l'UPCBD, qui sont plutôt des professionnels du secteur. Et donc, vous êtes l'association justement plutôt pour le côté consommateur. Vous avez une communauté qui est très engagée. Donc, je le vois sur les réseaux. Donc, vraiment une communauté qui se bat, qui essaie de transmettre les bonnes informations. Qu'est-ce qui crée justement ce lien que vous avez entre les adhérents, cet engagement que vous avez? Comment tu l'expliques, cette partie-là, ce grondement qu'on sent d'une population qui commence de plus en plus à grandir en France, justement sur la question du cannabis?
Moi, je crois que c'est un ras-le-bol des préjugés, des clichés, etc. Et puis, factuellement, une fois qu'on sait quelque chose, qu'on connaît la vérité, ça pique en fait de voir du n'importe quoi dire.
Alors, tu parles de vérité. Mets les deux pieds dans le plat. Tu parles de quoi exactement ?
Je parle de tout ce qu'on dit du cannabis.
Alors, exemple, je te pose une question.
Oui. Vas-y.
Voilà. Prohibition.
Prohibition. Bon, alors, est-ce que la prohibition fonctionne ?
Non.
Non.
Carrément non.
Non. Pourquoi ? Alors, les uns vont dire que c'est parce qu'on n'y met pas les moyens, qu'il n'y a pas assez de force de l'ordre, etc., etc. Mais en fait, on a bien vu que aucun pays qui est sorti de la prohibition, par exemple, n'a eu une augmentation de la consommation. Donc, si on veut lutter contre la consommation…
Même le contraire.
Pardon ?
Même le contraire sur certains pays, parce que l'information était… On peut communiquer à partir du moment où en fait, on autorise à parler du sujet. On l'encadre. Et en fait, on peut avoir des infos comme par exemple la construction du cerveau quand on est jeune. Je ne sais pas si tu veux aborder aussi ce sujet-là, de fumer quand on est trop jeune, etc., qui peut apporter des problèmes.
Alors, c'est ça. En fait, disons que ce sont c'est tout un tas d'informations qui sont un peu biaisées. C'est-à-dire qu'il y a toujours il y a un fond. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de la question de la schizophrénie parce que c'est celle qui revient tout le temps. OK ? Alors, certes, il y a eu des personnes, en fait, qui ont consommé du cannabis et qui ont commencé à en voir ce genre de choses. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel autre produit, en fait, pourrait avoir le même impact. C'est-à-dire que même chez les schizophrènes, il y a différents facteurs qui vont rentrer en compte pour déclencher ce truc. Mais en fait, c'est surtout qu'ils ont un terrain au départ. Donc, en fait, qu'ils consomment ou qu'ils ne consomment pas, ça veut dire que factuellement, à un moment donné… ça pourrait se déclencher.
D'accord.
Donc, en fait, le cannabis n'est pas le déclencheur en soi. C'est certes un facteur qui peut être à favoriser à un moment donné, mais le fait est que génétiquement, la personne avait déjà ce truc en elle.
Ok. Je vais te poser plein de questions comme ça, la queue leu-leu, et essayer de faire des réponses vite.
Je vais essayer.
Parce qu'on va essayer de péter un petit peu des mythes. Okay. Je reviens sur la prohibition. Alors,
la prohibition. Déjà, la mise en place de la prohibition. Ok. Ça, c'est quelque chose de super important. On parlait de discrimination tout à l'heure. Il faut savoir que c'est les États-Unis au départ qui ont poussé un peu pour cette prohibition. C'est Hans Liger dans les années 30-40 qui a un petit peu mis ça en avant. Mais pourquoi ? Parce que le cannabis en fait était associé chez eux aux Latinos. Voilà. Chaque race entre guillemets. Chaque race en fait a plus ou moins sa drogue. Donc les Noirs c'était le crack, les Latinos c'était plutôt le cannabis. Et donc, du coup, à la fin de la prohibition de l'alcool, d'ailleurs, c'est ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'ils arrêtent la prohibition de l'alcool parce qu'ils se rendent compte que ça fonctionne pas. Ils repartent sur une autre prohibition, sur un autre produit. Mais le truc n'a aucun sens. Déjà, rien que ça, le truc n'a aucun sens. Donc, ils partent là-dessus parce que c'est un moyen aussi d'avoir une sorte de contrôle des populations. Voilà. Donc, en fait, comme ça, on va pouvoir les persécuter gratuitement. OK ? Et d'ailleurs, je suis désolée, mais pour moi, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Hein. En France, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas envie de trop légaliser ce truc parce qu'en fait, après, comment on va les embêter, en fait, les gens des quartiers ? Si on veut pouvoir continuer, en fait, à un petit peu persécuter les gens des quartiers et garder ce contrôle de la population, Il faut encore un motif. Il y a celui-là. Voilà.
D'accord.
Le contrôle aux faciès, etc., etc. Je vais pas aller plus loin. Mais sur la question de la prohibition, on voit bien que la prohibition ne fonctionne pas. Parce que de toute façon, les gens vont consommer. Les gens continuent de consommer. En France, le nombre de consommateurs ne fait qu'augmenter.
Plus gros consommateur d'Europe, la France, hein, détaché.
Voilà. Donc, ça veut bien. Et pourtant, c'est la France qui a l'arsenal répressif le plus fort. Et donc, il y a quand même autant de consommateurs. Donc, clairement, ça ne fonctionne pas. Comment on voudrait continuer avec la même méthode, obtenir des résultats différents ? Voilà. Donc, si je continue à utiliser du chocolat pour faire des gâteaux à la fraise, ça ne fonctionnera jamais.
Tu sais que c'est la définition de la folie, hein, selon Einstein. C'est-à-dire que si tu fais plusieurs fois la même chose et que tu attends des résultats différents, c'est que t'es fou. Et on peut se dire que t'as raison. Aujourd'hui, la prohibition ne fonctionne pas parce qu'il y en a de partout, en fait, de tous les côtés. La plupart des personnes qui sont embêtées ou qui se font arrêter des fois vont en prison, c'est pas forcément des gros délinquants. ça enrichit une grande partie de réseaux qui sont pas forcément les mieux pour la population française. Et après, derrière ça, il y a toute cette partie non-contrôle du produit. Il y a cette partie aussi non-information, parce qu'on ne veut pas communiquer sur quelque chose qui est interdit.
Exactement.
Et c'est là où on crée en fait un cercle vicieux et qui n'est pas forcément constructif. Et
donc, c'est un de tes combats, ça. C'est ça.
Ben,
c'est le combat de Normal France. C'est le combat de Normal France. On ne peut pas… tu parles de qualité produit, mais clairement, là, on est dans la réduction des risques. Donc, on va en parler. Hein. C'est que l'association Normal France, c'est une association de réduction des risques. Et le contrôle du produit, c'est genre, mais vraiment… un de nos plus gros arguments. C'est-à-dire que la réduction des risques, en fait, chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on laisse les usagers s'approvisionner, en fait, par le marché noir, on les met face à un produit qui peut être frelaté, à un produit qui peut être mal... Enfin, voilà, il y a tout un tas de
dangereux
choses, en fait,
pour la santé.
Qui peut être totalement dangereux. Encore plus dangereux que le simple fait de consommer du cannabis, en réalité. Parce que consommer du cannabis n'est pas, c'est pas anodin non plus. Hein. Voilà, il y a différents modes de consommation. La combustion, forcément, ça va jouer sur tout le système cardiovasculaire, sur les poumons, sur le système respiratoire, etc. Donc, comment veut-on diminuer les effets, les mauvais effets, en fait, de la consommation de cannabis en donnant justement un produit qui lui-même est le plus mauvais possible? Donc, en fait, c'est là où, en fait, on doit prendre conscience qu'il faut aller au-delà de l'aspect moral de, oui, consommer des stupéfiants, c'est bien, c'est pas bien, etc., etc. Là, la question, c'est plus de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. La question, c'est qu'on veut protéger, en fait, la population. On veut protéger les usagers. Et c'est, en fait, c'est là où on rentre, en fait, un peu en conflit avec les institutions. Parce que pour eux, il faut pas qu'ils produisent, tout simplement. Il faut juste pas consommer. Mais le fait est qu'on ne peut pas se mettre derrière chaque usager. Il y a 17 millions, je crois, d'expérimentateurs. On va pas mettre un flic derrière chaque expérimentateur pour lui dire non, il faut pas. Donc c'est ça. Donc du coup, vu qu'on ne peut pas maîtriser cet aspect-là, il faut maîtriser au niveau du produit.
D'accord. Donc vous êtes pro légalisation.
Ah, complètement.
1000%.
1000%. Okay. On est pour. Donc, alors on parle plus de régulation chez nous.
Okay.
Régulation, parce que légalisation, ça fait un petit peu trop la porte ouverte, etc., l'abondance et tout. Donc nous, on veut plutôt une régulation, c'est-à-dire qu'on veut que le marché soit régulé. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un contrôle d'une façon ou d'une autre. Alors c'est pas forcément venant des institutions, ça peut être aussi du contrôle entre pairs. Je m'explique. Hein. Nous, le modèle qu'on met en avant, c'est les cannabis social club. Les cannabis social club,
parce comme en Espagne.
Comme en Espagne. Alors, en fait, peut-être même un peu mieux qu'en Espagne.
D'accord.
Et puis, l'autoproduction.
Alors, réexplique un petit peu, parce que ça, c'est hyper intéressant, les cannabis social club. C'est-à-dire qu'en gros, l'État autorise d'avoir un certain nombre de plants par personne pour une consommation seulement personnelle.
Alors là, on parle de l'autoproduction. Si on est sur l'autoproduction, effectivement, on peut avoir des modèles où on autorise peut-être d'avoir 4 ou 5 plantes à la maison, etc., et que la consommation reste au niveau, au domicile, en tout cas personnel, sans commerce ou autre. Ensuite, on a effectivement le modèle des cannabis social club, où là, en fait, c'est plutôt une sorte d'association de consommateurs. On peut avoir, par exemple, 2 ou 3 personnes qui s'occupent de faire la production, et puis il y a un certain nombre d'adhérents.
Et c'est étroitement lié, parce que les cannabis social club, à la base, c'est pour ceux qui ne peuvent pas produire chez eux, mais délèguent en fait cette partie-là à l'association.
Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, mais ça peut être aussi des gens qui n'ont pas envie de produire chez eux, hein, ouais. Parce que ça demande quand même un petit savoir-faire quand même pour cultiver.
Effectivement. Voilà. Et donc là, on est dans un endroit encadré.
C'est ça.
Où on maîtrise ce qui est produit, la qualité de production.
Exactement.
Avec des règles spécifiques, parce qu'on n'a pas le droit de se balader avec notamment.
Après, c'est vraiment des modèles. C'est-à-dire qu'il faut après adapter un petit peu, au lieu, géographiquement parlant, aussi aux aspects. Il y a tout ça qui peut rentrer.
Vous êtes pro-légalisation, enfin pas légalisation.
Pro-régulation.
Pro-régulation. Et tu serais plutôt dans le modèle donc cannabis social club.
Voilà. Alors on n'est pas fermé, hein. Mais disons que nous c'est le modèle qu'on préfère. parce que justement, il n'y a pas, parce que si on passe par l'État, il y aura des taxes en plus. Enfin, il y aura tout un tas de choses en fait qui seront différentes. Mais on n'est pas taxes. Fermé à l'idée. Hein.
Enfin, il y a des taxes sur les cannabis social clubs. Même si c'est des assos.
Ça dépend en fait du modèle. C'est pour ça que je dis, si on met en place ce modèle en France, ce sera sous certaines conditions. Il faudra qu'elle soit adaptée en fait à la législation française, mais aussi à la situation française et aux aspects culturels français. Parce que une régulation ce qui peut être fait peut-être au Canada ne sera peut-être pas forcément adaptable en France, quoique c'est quand même un cousin, on va dire de la France. Mais par exemple, ce qui a pu se passer en Californie, où là, c'est vraiment c'est pas la débandade, mais voilà, c'est vraiment l'abondance, etc., etc. C'est pas forcément ce qu'on veut non plus.
D'accord. Alors, voilà. Toi, est-ce que tu penses que c'est utopique votre combat ? Alors, je suppose que non, parce que sinon tu serais pas là.
Je serais pas là.
Ça, c'est clair. Mais est-ce que tu penses que ça va arriver ? On voit déjà, ne serait-ce sur le CBD, qui reste vraiment une plante très soft, une partie soft du cannabis. Et on voit déjà les galères qu'ont aujourd'hui le réseau sur le CBD. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va y avoir un changement en France ?
Alors, je pense que le CBD…
Moi, la question que je te pose, c'est sûr, parce que vous êtes plus sur la partie THC.
Oui.
Et donc, moi, c'est plutôt la partie THC. Est-ce que tu penses qu'il y aura un changement sur cette partie-là ?
Je pense qu'il y aura un changement. Mais ce qui se passe, c'est que le CBD est arrivé un petit peu, un peu vite… C'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, hein. Vraiment, on l'a vu. Enfin, ça arrivait comme ça d'un seul coup. Je crois que c'est aussi l'affaire de Canavap aussi qui avait beaucoup mis ça
avec
en avant.
Sébastien, ouais.
Sébastien Bégri. Mais oui, ça va changer en fait. Il n'y a pas de raison que ça ne change pas. C'est juste que là, ils font de la résistance en fait. Pour moi, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu le chant du cygne. Ils sont en train de se presser, de tout faire pour empêcher les gens d'y arriver, que ce soit le CBD ou autre, parce qu'ils sentent que de toute façon, ils vont pas avoir le choix.
D'accord, donc toi, tu penses que c'est obligatoire, c'est-à-dire l'encadrement de ça, c'est un passage obligé pour le futur.
Oui, bien sûr, c'est un passage obligé.
Et on voit que l'Allemagne, d'ailleurs, est en train de prendre ce chemin. Je ne sais pas si c'est un chemin qui te parle.
Alors, je ne connais pas exactement le modèle qu'ils vont adopter. Je pense aussi que… C'est pas encore tout à fait abouti, hein.
C'est pas abouti, mais c'est dans les tuyaux et.
Je sais que c'est dans les tuyaux, que c'est quelque chose qu'ils mettent en avant et c'est très bien et c'est super. Et je pense que justement, ça peut aussi un petit peu influencer les perceptions des Français et même peut-être de certains politiques. Maintenant, après, les Français sont plutôt hautains, j'ai envie de dire, dans le sens mais nous on fait pas comme eux.
D'accord.
Nous on est les Français, on est les pays des droits de l'homme. Enfin bon, voilà quoi. Donc ça va mettre du temps, en fait. Ça va mettre du temps, mais ça finira par changer.
Je comprends. Moi, je te pose une question, là, sur cette partie autorisation. Donc, j'ai compris que toi, tu penses que c'est un passage obligé. C'est-à-dire qu'en gros, on va y arriver, quoi qu'il arrive. Après, il y a plusieurs chemins possibles. Ce qu'on peur, quand je discute avec la communauté, c'est que l'État dit, bon, on va donner ça à certains gros qui vont… cannibaliser le marché, s'écarter peut-être des petits producteurs, s'écarter des commerces de proximité, s'écarter des social clubs, cannabis social club ou autre, et vraiment en mode business. Toi, comment tu vois ça ? Est-ce que vous pensez que vous allez assez avoir de force aujourd'hui dans votre assos pour combattre ce genre de choses ?
Est-ce qu'on va avoir assez de force ? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que pour qu'on puisse avoir de la force, il faut qu'on ait du monde aussi.
Donc adhérents.
Voilà, donc des adhérents, mais aussi des membres actifs, des bénévoles, des personnes qui ont des partenaires aussi, des gens qui ont envie de faire avancer les choses, parce que je dis bien, on est tous bénévoles en fait, on fait tout ça en plus de notre vie professionnelle. On est beaucoup à travailler la journée et à faire ça le soir. Hein. Voilà, on est un peu des Batman.
Donc, j'adore.
Pardon. Donc du coup, effectivement, est-ce qu'on va avoir de la force ? Je sais pas. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que notre message restera le même en fait.
Alors,
et justement, les cannabis social club, en fait, c'est une façon de ne pas justement aller, de ne pas donner en fait trop de force à Big Cana. On appelle Big Cana, qui est vraiment voilà, de ne pas donner, de ne pas tout leur mettre entre les mains. Pour nous, c'est très important que si jamais on arrive à une régulation, et même si, enfin, on y arrivera, mais je ne sais pas quand, mais si on y arrive, il faut absolument qu'on ait cette possibilité de faire au moins l'autoproduction ou au moins les cannabis social club pour pouvoir un petit peu contrer ça. Nous, vraiment, ce qu'on veut mettre en avant, ce sont les modèles non marchands.
D'accord. Voilà. OK. Et moi, quand je vois ça, je me dis quel impact vous avez aujourd'hui, vous, avec le gouvernement. Vous êtes en contact avec eux, vous avez un interlocuteur. Comment vous gérez ça aujourd'hui pour faire monter le message?
Donc, on arrive en fait à avoir quand même accès on va dire aux institutions. Il y a Hugo qui est sûrement dans le coin et qui pourra en parler après, qui lui en fait est responsable justement des relations avec les institutions. Sur l'année 2021, on a eu l'occasion de participer par exemple à la mission d'information cannabis qui avait été donc c'était une mission d'information avec des membres de l'Assemblée nationale, etc. Donc qui nous ont écoutés. Enfin, qui nous ont auditionnés. Alors, certes, ils ne nous ont pas auditionnés très longtemps. On n'a pas eu le droit à beaucoup parce que il y avait différentes parties et on va dire que l'usage adulte ou dit récréatif n'a pas forcément été mis en avant. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais on a eu l'opportunité de discuter avec eux. Donc, voilà. Donc, on a aussi produit une note d'information de 80 pages pour parler du modèle de régulation que l'on met en avant. Donc, tout ce que je dis, en fait, peut-être retrouvé directement dans cette note et qui est aussi disponible donc sur notre site internet et qu'on avait un petit peu mis sur les réseaux sociaux. Donc on a la possibilité. Maintenant, le problème étant que certains politiques, il y a beaucoup de politiques. En réalité, je pense que même la moitié, voire majoritairement, ne sont pas pour, mais ils ont ce poids de les électeurs. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Donc, en fait, il y a deux solutions. C'est-à-dire qu'on doit agir sur deux points. On doit agir à la fois sur les décideurs, mais aussi, en fait, sur l'opinion publique. Et c'est ça, c'est un aussi de nos objectifs, en fait, au niveau de l'association, qui est d'informer le grand public. Donc, en réalité, nous, on n'est pas une association qui est censée représenter les usagers, mais en réalité, on représente la société civile. On représente les citoyens. On se considère comme une association de citoyens. D'ailleurs, on a beaucoup de bénévoles qui ne consomment pas.
D'accord.
On a des bénévoles qui ne consomment pas, mais bien sûr. Mais parce qu'en fait, ils ont compris que c'est pas juste une question de vouloir consommer, de vouloir être libre, de faire ce qu'on veut, mais c'est de vraiment pouvoir protéger la population. Et on a bien compris que pour protéger la population, il y avait ça à faire. Okay. Réguler, en fait, pour mieux protéger.
Ok, c'est intéressant ce que tu viens de dire.
Merci.
Comment on devient adhérent? On va sur ton site.
C'est pas mon site,
ouais, c'est le site de l'association.
Et en fait, on clique sur adhérer et c'est pas plus compliqué.
Et
que ça.
C'est payant?
Oui, c'est payant. On a une formule à leur petit budget à 15 euros. La formule.
Par an?
Par an, oui.
Okay.
Classique est à 30 euros et on a une formule aussi bienfaiteur à 70 euros où il y a des petits goodies en plus.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qui fait quand je suis adhérent? J'ai droit à quoi?
Alors, en tant qu'adhérent, donc on a ce qu'on appelle notre espace adhérent. Donc dans l'espace adhérent, il y a des petites informations en plus, on va dire, pour les adhérents. Il y a des codes promo aussi vers certains partenaires. Donc voilà. Et puis
alors
surtout,
ça, c'est important que tu me dises. Tout à l'heure, tu l'as dit, c'est des partenaires qui respectent une charte.
Oui.
Voilà. Donc c'est important de le dire.
Oui,
spécifique,
oui, oui.
Qui soit dans vos valeurs.
Exactement, parce que avant un petit peu la montée du CBD, on avait des partenaires de différents ordres. Ça pouvait être des grignotiers, ça pouvait être d'autres associations ou des personnes qui vont, ce qu'on appelle la parnaphélie, c'est tout ce qui est un petit peu consommation, donc les vaporisateurs, tout ce qui est mode de consommation, les feuilles, etc. Tous ceux qui vendent ce genre de choses aussi. On en a beaucoup qui nous ont soutenus. Puis maintenant, on a un petit peu plus de commerces CBD qui sont partenaires aussi avec nous. Et c'est justement pour ça qu'on a mis en place cette charte. Parce que parmi les commerces CBD, ben, il y en a qui ne sont pas forcément aussi réglo qu'ils devraient l'être ou autres. Et donc, du coup, on demande quand même une certaine…
Éthique.
Voilà, une certaine éthique.
Okay.
Une certaine éthique pour être partenaire, puisque après, ce sont des partenaires en fait qui vont être représentés sur notre site internet. Et donc, forcément, on ne peut pas s'allier avec n'importe qui, entre guillemets. Sans vouloir. L'idée, ce n'est pas de descendre les autres commerce, mais en tout cas, nous, ceux qui sont partenaires chez nous, on veut absolument qu'ils aient une certaine éthique, parce qu'on pense totalement en fait aux usagers et à nos adhérents en fait qui vont potentiellement en fait faire appel à ces.
Et donc vous les protégez, c'est le but du jeu de toute façon, quoi qu'il arrive de faire ça. Donc je suis adhérent, je paye 15 euros par an.
Oui.
J'ai le droit à avoir des informations en exclusivité.
Exactement.
J'ai aussi des bons de réduction. Je fais partie de la communauté.
Exactement. Je participe aux réunions mensuelles de l'association.
Qui sont quoi, en visio, qui sont.
Alors, elles peuvent être en visio. En fait, on a un espace de discussion sur Discord.
D'accord.
Voilà, où on a un petit peu de monde d'ailleurs. Alors, nous, on travaille exclusivement sur Discord. Hein,
ok.
Parce que du coup, je crois que, ouais, on est tous en fait aux quatre coins de la France. Jusqu'au Pérou même.
D'accord.
On a même eu à un moment donné des ambassadeurs aux États-Unis. Donc du coup, on fonctionne vraiment en totale dématérialisation. C'est-à-dire que
vous avez raison.
Le confinement en fait nous a juste empêché de faire nos formations en physique, mais sinon ça nous a pas empêché vraiment de travailler parce qu'on a l'habitude de travailler comme ça par exemple.
Ok. Okay.
Donc on travaille tous à distance. Donc moi je suis plus proche de Paris, mais on en a qui sont à Toulouse, qui sont à Lyon, à Rouen, on a vraiment de tout. Donc du coup, ce forum, cet espace de discussion Discord, c'est déjà un espace de travail pour nous, les membres du bureau exécutif, du bureau opérationnel et tous les membres actifs. Mais c'est aussi un espace de discussion pour les sympathisants, mais aussi les adhérents. Donc en fait, même les sympathisants qui ne sont pas adhérents peuvent accéder en fait à cet espace de discussion. Mais il y a des channels en fait qui sont privés entre guillemets pour les adhérents.
D'accord. Ok, je vois très bien l'organisation. C'est super.
Oui. Et en plus, c'est super intéressant, vraiment, même en tant que sympathisant, il faut venir parce qu'il y a des personnes qui ont des connaissances, mais c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant.
T'es passionné.
On est très, très loin de ce qu'on peut lire dans les journaux et tout. Mais vraiment, c'est pour ça que je dis que quand j'ai ouvert les yeux un peu sur la question du cannabis, quand je suis arrivée dans l'assaut, mais ça m'a explosé le cerveau, quoi.
Mais tu sais, j'adore ce que tu dis parce qu'en fait, l'information, c'est une des choses. Qui est le plus important en fait. Et c'est un peu notre combat aussi sur Parlons Cana. C'est pour ça que tu es là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit de producteurs ou que ce soit des marques ou que ce soit des avocats ou n'importe qui, ou des associations, viennent sur Parlons Cana pour transmettre ça. Et je pense que c'est la base. Le savoir, c'est la base. C'est la base de tout.
Le savoir est une arme, on dit aussi.
Exactement. et c'est ça. Et en gros, là, c'est votre combat. C'est-à-dire transmettre de l'information. Sourcé, véridique, parce qu'il y a de tout, on entend de tout et n'importe quoi, véridique, mais que ça soit n'importe quoi dans le négatif, mais comme dans le positif. Des fois, on sort des trucs qui sont à côté de la plaque aussi dans le sens positif. Et donc, c'est important d'avoir un endroit normé, on va dire, voilà, qui permet en fait de dire voilà, j'ai la vraie source, j'ai les vraies informations, et vous avez cette responsabilité-là.
Exactement. Si vous passez sur le site internet, vous verrez que tout est vraiment sourcé, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire que et puis les bénévoles en fait qui ont travaillé sur le contenu du site internet,
ils
sont mis à fond. Quoi.
C'est les tueurs.
Voilà, on a alors au sein du bureau, je vais en parler très rapidement. On a donc Olivier Bertrand qui est cofondateur de l'association, mais qui est aussi médecin généraliste addictologue.
Excellent.
Voilà, donc qui a passé mais vraiment des années en fait pour le cannabis. On a Florent donc qui lui est au Pérou actuellement mais qui a fait une université du cannabis aux États-Unis, j'ai plus le nom en tête. Amsterdam University et donc du coup qui pareil a un bagage de fou en fait et qui s'occupe aussi de toute la communication, tout ce qui est réseaux sociaux et tout, qui chapeaute tout ça. Donc voilà, c'est un moyen aussi de lui faire un petit clin d'œil. Donc ils sont tous les deux cofondateurs. En cofondateur, on va avoir aussi Kenzie Riboulet, qui lui, en fait, est plus porté sur la question internationale. Donc, il a un petit peu laissé Normal France pour vraiment s'occuper de la question d'un point de vue international et qui a souvent porté, en fait, la voix des usagers, pas forcément de Normal, mais vraiment de tous les usagers français au niveau européen, au niveau des instances Vienne, Genève, etc. Donc, vraiment, on a des personnes qui sont, mais très, qui s'y connaissent, quoi. Et puis, on a aussi un collège d'experts. On a un collège d'experts interdisciplinaires. Donc, avec vraiment des membres, des sommités, en fait, dans leur domaine. Mais tout ça en lien avec le cannabis. Donc,
excellent.
On va avoir des sociologues, des avocats, encore des médecins, Enfin voilà, c'est vraiment, ou des experts aussi en botanique, des experts en réduction des risques. On a vraiment de tout. Donc vraiment, ce qui nous manque en vrai, c'est la visibilité, c'est que les gens nous connaissent.
D'accord.
C'est vraiment ce qui nous manque, parce qu'une fois que les gens rentrent dans l'assaut, ils sont toujours content ébahis de voir autant d'informations.
Mais écoute, c'est important. De toute façon, il faut du monde. Et là, on va faire un appel tout de suite. Tous ceux qui écoutent le podcast, tous ceux qui l'écoutent, rejoignez l'association. Il faut mettre un maximum de personnes chez toi. Déjà, parce que vous êtes pétillant. J'ai vu l'équipe, c'est vraiment génial tout cela. Déjà, vous êtes au top. Et après, pour tout ce que tu viens de dire, effectivement, tous ces professionnels qui se sont réunis dedans, représenter, assainir la filière, assainir le marché, donner des informations, essayer d'être un peu plus cohérent peut-être avec la côté prohibition, information et tout ça, sur ce qu'on a échangé. Et le nombre, quoi qu'il arrive, est important. Si demain, vous allez voir des politiques et vous dites, on est 1500, ok, c'est cool. Si vous dites, on va voir les politiques, on est 10 000, 50, 100 000, c'est pas la même donne. Et on le voit avec d'autres secteurs, par exemple, en prenant les chasseurs, qui ont effectivement un poids politique assez puissant parce qu'ils ont su se regrouper. Ils ont su créer des lieux puissants où ils peuvent justement inciter les politiques parce qu'ils savent derrière qu'il y a des électeurs potentiels. Et totalement. Je pense que ça, il faut aussi en être conscient.
Absolument.
Et il faut rejoindre des associations comme toi. On parle de 15 euros pour changer potentiellement qui on va mettre en prison, quel type d'information on va donner à nos enfants, comment on va structurer le marché, peut-être enlever une grande partie de délinquance. Il y a plein de choses qui peuvent complètement changer sur 15 euros.
Exactement.
Donc c'est énorme. Et en plus, on apprend des choses. Donc moi, je suis convaincu de toute façon par ce que vous faites. J'ai discuté avec ton équipe aussi hier soir. Et donc vous avez aussi un truc super. Je sais pas si tu veux en parler sur la partie de scoring.
Oui. Oui, je peux en parler, tout à fait. Donc, ça a été mis en place un petit peu avant les élections, mais en fait, c'est un outil qui est à la disposition des citoyens pour pouvoir en fait avoir le point de vue, la perception en fait des élus sur la question du cannabis. Donc, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être adhérent pour utiliser cet outil. En gros, c'est un site internet. On va dessus, on va chercher en fait son élu, que ce soit son député. Alors là, on l'a fait aussi pour les présidentielles, et on leur demande en fait de répondre à 5 questions. Alors j'ai pas les questions en tête, mais de toute façon, c'est sur le site internet. Et en fonction de ces 5 questions, en fait, ça va donner un score de compatibilité avec nos idées de régulation.
D'accord.
Donc en gros, plus le score est important, plus ça veut dire en fait que le politique en question est d'accord avec nous.
D'accord. Alors ce que je comprends bien, en fait, tu rebondis exactement sur ce que j'ai dit. Tu permets au grand public de dire est-ce que telle politique est pour nos idées, et alors potentiellement je vais voter pour lui. Et grâce à ce score.
Pas.
Et donc en gros, tu mets au grand public ces politiques-là face à leurs idées. Et en fait, tu le mets face à une population qui peut dire, je vais pas voter pour lui parce qu'il est pas pro libération. Je sais pas comment tu veux le sortir,
mais régulation.
Régulation, c'est cette partie-là.
Mais j'aime bien libération aussi.
Pas mal.
Faut libérer la plante.
C'est ça.
Mais
Et ça, c'est intéressant. Et vous avez fait ça sur beaucoup de politiques. Déjà pour les présidentielles, je suppose.
Pour les présidentielles. Donc, et en fait,
Mélenchon, je crois, était pour.
Ouais, alors Mélenchon a répondu, donc il y en a qui n'ont pas répondu évidemment, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est difficile pour eux de répondre parce que ils pensent à l'électorat derrière. Donc Marine Le Pen, je crois, n'a pas répondu, Emmanuel Macron n'a pas répondu, Valérie Pécresse n'a pas répondu, et je suis pas sûre qu'Hidalgo a répondu non plus.
D'accord.
Voilà, mais Mélenchon a répondu.
Et il a dit oui d'ailleurs.
Il a absolument. Dit oui. Je sais plus, je me rappelle plus exactement de son score, mais il a eu un score quand même assez proche de 100%, il me semble.
D'accord. Et après, vous avez aussi des politiques, entre guillemets, de second plan. Donc, par exemple, maire.
Tous les élus, en fait.
D'accord.
Tous les élus. Donc, c'est les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
OK, excellent. Excellent. On va aller voir ça. Moi, j'ai hâte de voir les scores.
Là, ça va bientôt. On va devoir bientôt remettre à jour la base, puisqu'il va y avoir les législatives. Mais effectivement, donc, il y en a beaucoup qui ont répondu. Pas des masses, mais il faut pousser, en fait.
Pousser.
Et en fait, Enfin, nous, on peut, hein, on essaye de toute façon, ça fait des années qu'on essaye de contacter les politiques pour que ça puisse avancer. Donc, on en a certains avec qui on a eu des liens et avec qui on peut discuter. Voilà. Mais c'est aux citoyens, en fait, de vraiment faire ce pas-là parce que c'est pas juste pour nous qu'on le fait, en fait. On le fait pas juste pour l'asso, on le fait pour tout le monde, en fait. On le fait pour le grand public. Donc, il faut que vraiment tout le monde se saisisse de cette question-là parce que le résultat, le bénéfice, en fait, il sera sur tout le monde, les usagers et les non-usagers.
Christelle, je crois que c'est une belle phrase de la fin. Donc, magnifique ce que tu viens de dire, inspirant. Le message, c'est rejoignez l'association.
Absolument.
Évidemment, nous, on va pousser à mort parce que moi, je suis convaincu. Vous n'êtes pas payé, vous faites ça par conviction.
Absolument.
Vous le faites bien. Voilà, vous avez plein d'idées, ça bouillonne. Enfin, c'est vraiment le top. Donc, moi, je vais tout faire pour vous pousser aussi au maximum de tous les côtés, pour vous donner un maximum de visibilité. Et puis, j'invite vraiment tout le monde à rejoindre votre association parce qu'il y a plein de choses fantastiques à aller
Merci.
Voir dedans. Et c'était un très bon moment ensemble. Très Merci. Heureux d'avoir croisé ce regard et croisé ce sourire.
Merci.
Vraiment, vraiment. Tu shines. Toi. Et je pense que ça se ressent aussi. Et c'est pour ça que vous avez une communauté aussi investie. Dedans, parce que ça se ressent, vous dégagez en fait ces ondes-là qui entraînent le monde et c'est comme ça qu'on va arriver au changement. Voilà.
Ben, j'espère en tout cas. Ben, merci pour l'invitation. Merci de pouvoir nous donner, d'avoir pu nous donner en fait la parole là-dessus. Et puis ben, à très bientôt. Hein.
À très vite. On se tient au courant régulièrement sur votre avancée.
Pas de soucis.
Merci encore, Christelle.
Merci à toi.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information lié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.